êtes sur Radio Campus Pau.
Retrouvez Campus Zoom,
l'émission qui fait le zoom sur le local. Bonjour et bienvenue, c'est Campus Zoom pour Radio Campus Pau, 98.8 sur vos radios. On se retrouve aujourd'hui avec Ernestine
et Laura. Au programme de notre émission, nous allons vous parler du monde de la drague et du spectacle We Are Here, We Are Queer. Comme vous le savez déjà, nous sommes en plein dedans dans le mois des discriminations. Ce moment important de la sensibilisation et de réflexion sur les préjudices et les inégalités qui existent dans notre société. Célébré chaque année en mars, le mois des discriminations a pour objectif de sensibiliser le public aux diverses formes de discrimination, qu'elles soient fondées sur la race, l'ethnie, le genre, la sexualité, la religion ou tout autre aspect de l'identité.
Les discriminations peuvent prendre de nombreuses formes, allant de la violence et de l'intimidation à la marginalisation et à l'exclusion. Les personnes qui en sont victimes peuvent être confrontées à des obstacles importants dans tous les aspects de leur vie, notamment en matière d'emploi, de logement, de soins de santé et d'éducation. Les préjugés peuvent également avoir des effets psychologiques graves tels que l'anxiété, la dépression et même la détresse émotionnelle.
Le mois des discriminations est donc une occasion de mettre en lumière ces problèmes et de sensibiliser le public à leur existence. Les événements organisés pendant ce mois peuvent inclure des conférences, des débats, des ateliers, des manifestations culturelles pour promouvoir la diversité et l'inclusion.
Il est important de souligner que la lutte contre les discriminations ne se limite pas à un mois de sensibilisation annuelle. La prise de conscience doit être constante et se poursuivre tout au long de l'année. Les gouvernements, les entreprises et les individus doivent continuer à travailler ensemble pour combattre les discriminations et promouvoir l'égalité des chances.
Le mois des discriminations nous rappelle que nous devons rester vigilants et actifs dans notre lutte contre les préjugés et les inégalités. En prenant des mesures pour promouvoir la diversité et l'inclusion, nous pouvons travailler ensemble pour créer une société plus juste et plus équitable pour tous.
À Pau, la ville a mis en place plusieurs activités, conférences et ateliers dans le cadre de Mars Attack, du 8 mars au 8 avril. Mars Attack invite le public palois à déconstruire les stéréotypes et les idées reçues qui peuvent amener à discriminer, parfois sans s'en rendre compte. L'objectif de cet événement est de sensibiliser la population de Pau aux enjeux de l'égalité et de la non-discrimination.
Mars Attack offre ainsi une occasion de réfléchir sur nos propres préjugés et d'ouvrir le dialogue pour combattre les discriminations. Des événements tels que des conférences, des ateliers, des projections de films et des discussions sont organisés pour offrir une réflexion sur ces questions. En somme, Mars Attack à Pau est un événement important qui permet de sensibiliser le public aux enjeux de l'égalité et de la non-discrimination. Cette initiative vise à ouvrir le dialogue sur les discriminations pour lutter contre les préjugés et promouvoir une société plus juste et plus équitable pour tous. Pour plus d'informations sur les activités proposées dans le cadre de Mars Attack, nous vous invitons à écouter notre Campus Zoom précédent.
Attaquons maintenant le vrai sujet d'aujourd'hui. Nous avons mentionné plus tôt qu'on parlerait de drague. Mais qu'est-ce que c'est ? Vous avez sûrement déjà entendu parler des drag queens, un personnage qui se présente en public sous l'apparence d'un personnage féminin, souvent associé à un look très sophistiqué et exagéré en termes de maquillage, de coiffure, de vêtements et d'accessoires. Les drag queens sont généralement des hommes qui utilisent cette forme d'expression artistique pour se produire dans des spectacles de cabaret ou dans des soirées privées. La pratique de la drag queen est souvent associée à la communauté LGBT+, et est considérée comme une forme d'art et d'expression de soi. Les drag queens peuvent se référer à des personnages fictifs, des célébrités ou des personnalités historiques ou créer leur propre personnage. Pour certains, c'est plus une extension de soi plutôt qu'un personnage à part. Les performances de drag queen incluent souvent des numéros de chant, de danse, de comédie et de lip-sync.
La drag queen est différente du travesti, qui est une personne qui s'habille et se présente comme un personnage de l'autre genre pour des raisons de plaisir personnel ou de fantasme. La drag queen est généralement différente du transgenre, qui est une personne qui s'identifie comme appartenant à un genre différent de celui qui a été assigné à la naissance, et qui peut choisir de subir des interventions chirurgicales et hormonales pour se conformer à son identité de genre. En somme, le drag est une forme d'art et d'expression de soi, qui permet à des personnes de se présenter en public sous l'apparence d'un personnage d'un même sexe, autre sexe, ou complètement caricatural, dont le seul but est de choquer. Cette pratique est associée à la communauté LGBT+, et est considérée comme un art, une forme de divertissement et d'une expression de soi.
Si vous étiez étudiant l'année dernière à l'UPPA, vous avez sûrement entendu parler de l'exposition intitulée « Queer » qui a été présentée à l'UPPA en collaboration avec la médiathèque. Elle explorait le genre queer, son esthétique et sa signification politique. Cette question n'était pas nouvelle à l'UPPA, où la jeune doctorante Marion Cazot l'avait posée lors d'une première exposition en 2020. Depuis, elle avait continué à explorer l'univers queer, en particulier les drag queens, à travers de happenings, de conférences et d'expositions. Une nouvelle exposition et un spectacle de drag queen avaient été prévus à la Centrifugeuse le 11 mars, suivi d'une conférence et de visites guidées à la médiathèque André Labarrère du 12 mars au 12 avril. Ces événements ont fait partie du mois de sensibilisation contre les discriminations Marx Attack, co-organisé avec Margot.
Passons maintenant au spectacle de drag We Are Here, We Are Queer. Ce projet d'exposition annuelle vise à explorer notre relation avec l'identité de genre, le drag et le queer. Ces concepts représentent un bouleversement sémiologique et une nouvelle compréhension épistémologique de notre époque. En 2020, les artistes drag Vital, Azada, La Maison Lagrave, Mariposa, Sacha Kills et Sans Eugène se sont produits lors du vernissage et le spectacle drag, le 17 février 2020. Le spectacle a été filmé et monté par des étudiants de l'Université de Pau et mis en ligne. Le projet a été rendu possible grâce à Artefact et l'Université de Pau. Cette année, l'équipe de Radio Campus Pau s'est rendue directement à l'événement qui s'est déroulé hier, jeudi 16 mars, à 19h. Mais avant, nous avons pu interviewer Marion ainsi que quelques drag artistes.
Comme mentionné plus tôt, Marion est doctorante en histoire de l'art à l'UPPA et est créatrice et organisatrice de cet événement. On vous laisse avec son interview. Alors, comment est-ce que tu as eu l'idée de créer cet événement et dans quel but ?
Alors, l'idée, elle est venue, en fait, au courant de l'année universitaire 2018-2019, quand j'ai rencontré la drag queen Azada, qui était à l'époque étudiante en licence cinéma, théâtre et danse à Pau. Elle voulait un espace pour faire sa toute première performance. Et donc, c'est parti un petit peu d'une blague où elle m'a dit... T'es mon amie et tu me fais même pas un événement pour que je puisse faire performer. T'es pas vraiment ma pote. Donc du coup, on est parti de là-dessus. Et voilà, la première exposition We Are Here, We Are Queer a été créée là, avec une performance d'Azada et de son amie Vital, qui était à l'époque étudiant aux Beaux-Arts de Pau. Et du coup, en fait, ça a tellement bien marché que l'année suivante, on l'a refaite. On a invité des artistes de tout l'État français. Et du coup, ben, année après année, on a continué, du coup, ben, sauf en 2021 pour le Covid.
Comment se passe l'organisation d'un tel événement ?
Alors, ça se passe en beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord choisir les artistes qu'on veut faire performer, choisir les artistes qu'on veut exposer et prendre contact avec eux, prendre contact avec les photographes, demander les autorisations, etc. Ça, souvent, ça sous-entend qu'on a déjà un contact avec les artistes, au moins les artistes drag, qu'on a déjà une relation privilégiée avec eux. Comme ça, le projet, en fait, il est bien accueilli, ils savent déjà qu'est-ce que ça va donner, et aussi qu'on est professionnel et qu'on a une bonne appréhension, une bonne compréhension du milieu drag et de ses enjeux actuels. Et donc, petit à petit, en fait, on invite plusieurs fois les mêmes artistes. Et ça nous permet de nous faire connaître aussi dans la scène, vu que c'est quand même un petit milieu. Tout se sait facile, assez vite, à la fois dans les bons événements et dans les mauvais.
Du coup, ça fait combien d'éditions et combien de personnes viennent à peu près à chaque fois ?
Salut !
Une seconde. Alors, du coup, c'est la 4e édition. Et à chaque fois, c'est environ 200 personnes le jour du vernissage et pour le show, et sur le reste de l'événement, à peu près autant.
Nous avons déjà expliqué brièvement ce qu'est une drag queen. Pourtant, dans l'art du drag, il n'existe pas seulement des queens. Nous y trouvons également des drag kings, des genderfuck, des bio queens, des drag queer, entre autres. Nous allons faire une présentation rapide de quelques drags que vous pouvez retrouver dans cet art.
Commençons avec les drag kings. Un drag king est une personne qui s'habille, se maquille et adopte une apparence masculine, parfois exagérée, souvent dans le cadre d'une performance de drag. Tout comme les drag queens, les drag kings utilisent des vêtements, du maquillage, des prothèses et d'autres accessoires pour transformer leur apparence et créer un personnage théâtral, un personnage fantasque ou juste une extension de soi. Cependant, contrairement aux drag queens qui incarnent des personnages féminins, les drag kings incarnent des personnages masculins. Les performances de drag king peuvent inclure des numéros de danse, de chant, de comédie ou de performances artistiques et peuvent être présentées dans des contextes tels que des bars, des clubs, des festivals et des événements communautaires LGBTQ+, ou à la fac, comme vous avez pu le constater.
Ensuite, nous avons le genderfuck, un personnage dont la présentation tient à la fois du féminin et du masculin, par exemple en portant la barbe et une robe. Le terme peut être désigné une expression ou une identité de genre sans être associé à la drag. Bien évidemment, dans le monde de la drag, vous pouvez vous créer un personnage du même genre. C'est pourquoi nous avons les bio queens, une femme généralement cisgenre, qui prend un personnage de femme. On parle aussi parfois de afab queen, faux queen ou hyper queen. Nous avons également les bio kings, un homme généralement cisgenre qui prend un personnage d'homme. On parle parfois de faux king ou hyper king.
Nous avons également les drag queer, un personnage non binaire dont la féminité ou la masculinité n'est pas exagérée. Sensiblement semblable au genderfuck, il existe également le drag think. Ce style de drag a la particularité qu'il peut dépasser le genre avec l'incarnation de clowns, de créatures, d'animaux ou même d'objets. Bien sûr, l'art du drag ne se conforme pas à des normes, des étiquettes, etc. C'est un art avec une grande liberté dont le but n'est pas de vous mettre dans des cases, mais plutôt de vous donner de la liberté.
Enfin, vous entendrez parler du Club Kid dans ce Zoom. Le Club Kid était un mouvement de jeunes qui est apparu à la fin des années 1980, au début des années 1990, principalement à New York, et qui était dirigé par Michael Alec et James St. James. Ce mouvement était connu pour ses costumes extravagants, ainsi que pour sa consommation importante de drogues, telles que l'ecstasy, la kétamine et l'héroïne. Ils ont organisé de nombreuses soirées dans le métro de New York, ainsi que dans des discothèques et des lieux aléatoires. Aujourd'hui, le terme « club kit » est utilisé dans la communauté drag pour désigner un artiste qui incarne un personnage de création, tel qu'un clown, un dragon, un alien, indépendamment de toute consommation d'alcool ou de drogue. Afin de mieux vous expliquer cet art, nous sommes partis à la rencontre de quelques drag artistes qui sont montés sur scène hier à la Centrifugeuse. On vous laisse avec les interviews.
Commençons par la rencontre avec Jimmy Bigoudi, qui est un drag king.
Alors, comment est-ce que tu as commencé ta carrière
Du coup, j'ai commencé il y a un an et demi. J'ai découvert un show de drag king à la Pride de Bordeaux. C'était pendant c'était au début de ma cinquième année au Beaux-Arts. Du coup, j'ai eu beaucoup de chance et d'opportunités pour expérimenter le drag pendant ma dernière année et pour en faire... à mon diplôme et avoir mon diplôme grâce à une perf de drag. Et entre temps, je commençais mes premières scènes aussi hors les murs des Beaux-Arts. Et là, depuis la fin des Beaux-Arts, j'ai fait quelques scènes et je me crée petit à petit ma scène sur Bordeaux, tranquillement.
Comment est-ce que vous choisissez votre nom de scène ?
Moi c'est Jimmy Bigoudi. Jimmy c'est un prénom qui m'a toujours suivi depuis l'enfance. C'était au départ le deuxième prénom de mon grand-père. Quand ma mère m'a appris ça, tu sais, quand on pose les questions, genre, ah, c'est quoi ton deuxième prénom? Celui de papa, celui de. Bref. Et ben, du coup, j'ai demandé pour mon grand-père, et elle m'avait dit, bah, c'est Jimmy. Et j'ai eu un peu une révélation, genre, OMG, c'est le plus beau prénom du monde. Du coup, après, j'étais en mode, oh, j'appellerai mon premier fils Jimmy. Voilà. Voilà. Après, c'était une entité spirituelle à qui je parlais. Après, c'était le prénom d'un de mes tatouages. J'ai un petit smiley sur l'orteil que j'ai appelé Jimmy. Et après, quand il fallait trouver un prénom de garçon pour un drag king, j'ai immédiatement pensé à Jimmy. Et pour Bigoudi, et ben ça rimait. Voilà.
Super explication, la rime, c'est très efficace.
Voilà, et les Bigoudi, c'est rigolo.
Alors, comment est-ce que tu décris ton style de drag ?
Très funky, très sexy ravagé. J'essaie de mettre beaucoup de paillettes et beaucoup d'humour et de pas trop me prendre au sérieux. Parce que, enfin, depuis, bah, du coup, ça, j'ai fait 9 ans d'études d'art j'ai un peu compris que mon style artistique c'était faire rire les gens et leur faire du bien et leur faire plaisir. Je veux pas faire de l'art qui fait du mal aux autres. Du coup, dans mon drag, je fais ça aussi. J'essaie d'apporter de la joie et de la bonne humeur ou au moins des paillettes, quoi.
Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer en tant que drag?
Le manque de scène king, le manque de représentation, la caution king dans les shows de drag queen. Oui, voilà, le fait que les kings, on a une réputation de... petit mec mignon qu'on prend pas trop au sérieux et qu'on n'estime pas de ouf, alors que c'est un travail monstrueux que font les drag kings et que ça a énormément de mérite et que ça doit être beaucoup plus visible. Et donc là, on commence la France commence tout juste à voir un petit bout du drag king grâce à l'apparition pendant 5 minutes dans Drag Race France de
kings qui n'ont pas eu de ligne, mais des kings cependant là. Et donc voilà, ouais, ça commence à se faire connaître, mais oui, le manque de représentation est trop nul. Voilà, en gros, c'est dans les difficultés, là, je résume, hein, mais oui, c'est clairement ça, oui, le manque de prise au sérieux des drag kings.
Alors, comment est-ce que ton personnage, il a évolué parce que du coup, ça fait pas si longtemps que ça, en final, donc il a quand même évolué depuis.
Du coup, maintenant, j'essaye beaucoup plus de travailler sur mon corps de manière un peu... de faire un peu plus travailler mon corps pour me le réapproprier. Genre, autant avant, je pensais vraiment des perfs en mode... Enfin, comment dire? Je pensais vraiment des perfs de A à Z pour vraiment... Enfin, genre, vraiment créer une histoire, créer quelque chose. Et je pensais pas au fait que moi, j'étais là, que j'avais mis mon corps sur scène et que je faisais des trucs. Je pensais à tout ce qu'il y avait autour. Genre, j'avais beaucoup de figurants. Enfin, vraiment, je montais des trucs. Et maintenant, j'essaye... Déjà, je peux pas toujours avoir des figurants avec moi. Et il faut bien que je fasse des shows tout seul aussi par moment pour me challenger. Donc du coup, maintenant que j'essaie de faire des shows tout seul, bah du coup, je peux penser qu'à moi. Et donc du coup, j'essaye de plus en plus de vraiment penser à mon corps et qu'est-ce que je fais de mon corps queer que je mets sur scène et qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça veut dire. Et surtout, comment est-ce que je... Enfin, c'est pas facile de vivre toujours avec son corps. Et comment... Ouais, voilà, qu'est-ce que j'en fais, comment je... le présente à un public et donc ça passe par de la danse, par des trucs un peu sensuels, érotiques, enfin voilà quoi, en gros un peu sexy.
Comment est-ce que tu te prépares avant chaque spectacle, niveau look ou même mentalement, comment est-ce que tu te prépares avant de monter sur scène?
Je vais aux toilettes 10 fois globalement. Je bois beaucoup d'eau, je mange pas je sais pas trop, juste avant de monter, enfin vraiment ouais peut-être 2 heures avant de monter sur scène, quand je commence à 2-3 heures quand je commence à me préparer et tout, je crois que je blackout un peu et que juste je me maquille et que je mets ma tenue et après j'attends. Et dans ces moments-là, il ne faut pas trop m'embêter parce que je ne suis pas réceptif à l'extérieur en général. Voilà.
Comment est-ce que tu gères les critiques ou les commentaires négatifs sur ta performance? Enfin, s'il y en a, forcément, de temps en temps, ça doit arriver.
Du coup, avec mes études, j'ai pris l'habitude d'avoir des critiques négatives avec aux Beaux-Arts, enfin les profs qui me disent c'est nul, tu recommences tout, j'en ai eu pas mal. Donc j'ai maintenant appris à prendre la critique de manière constructive et de pas m'effondrer à chaque fois. Après, pour être honnête, pour l'instant, j'ai pas eu de retour si négatif que ça sur mes perfs, aussi parce que le public drag est hyper bienveillant et en fait c'est quand même très très, enfin oui, c'est je oui non je j'ai vraiment entendu des histoires, que ce soit à moi ou à des potes à moi, que après un show le public arrive et ils disent ah moi j'aurais pas fait comme ça, non, donc en fait non, juste même si tu te foires, même si t'estimes que t'aurais pu faire mieux, que t'as pas eu assez de temps pour préparer ou quoi, en fait le public il te le rendra toujours de manière hyper positive et de manière hyper bienveillante, et en fait si ça doit arriver, maintenant j'ai la peau dure grâce à mes études, je sais comment prendre la critique, mais sinon de manière générale non, c'est toujours c'est toujours un bonheur de perf et après d'avoir que des retours hyper positifs et des gens juste qui sont contents de t'avoir vu.
Quels sont tes conseils, enfin si tu en as, pour une personne qui souhaiterait se lancer dans le drag?
De pas s'arrêter à ce qu'on attend d'un drag king ou d'une drag queen ou d'une créature ou whatever. Les gens attendent des choses dans la vie et quand on pense drag queen et drag king, on a une image dans la tête et donc du coup moi je dirais aux gens de pas se dire que forcément si tu veux commencer du drag queen tu dois forcément avoir une énorme wig ou des talons super hauts ou non pas forcément, t'es pas obligé de ressembler à RuPaul et pareil pour le drag king, en fait si tu t'es pas obligé de ressembler, enfin de faire un contouring hyper hyper naturel et réaliste. Voilà, c'est ça, réaliste. Et qu'en fait, si tu veux te faire un contouring rose et une énorme moustache bleue, fonce, on s'en tape. Faut pas s'arrêter à ça. Et qu'il faut... Alors après, ça, ça dépend dans quelle ville on est, mais se rapprocher le plus possible des dragues les plus proches de soi et de foncer. Parce que si tu le fais pas, qui va le faire?
Quel est le message que tu souhaites transmettre à travers ton drag?
Je pense que c'est implicite les messages qu'on renvoie. Enfin, à partir du moment où on est sur scène, on renvoie un message. À partir du moment où on sort dans la rue, on envoie un message de toute manière. Donc forcément, un message de tolérance et d'acceptation d'acceptation de soi et juste de tolérance. Dans mes shows, moi, je veux qu'à la fin, les gens ils soient bien, ils soient contents, ils soient contents d'être venus et qu'ils aient passé un bon moment et que...
Nous avons également rencontré un deuxième drag king, Yex Fairy Venti.
Du coup, comment est-ce que tu as commencé ta carrière de drag king?
Alors moi, j'ai commencé en visionnant le film Parole de King de Chris Lagg, qui est un film traite d'un groupe de drag king à Paris. Et ça a été projeté dans ma fac, comme ça, à l'occasion d'une semaine de soutien et puis de revendication. J'y ai assisté par hasard. J'ai vu du coup ce que c'était que le drag king. Je me suis dit, un jour, j'essaierai. Peut-être environ quelques mois après, j'ai vu... je rentrais de plus en plus dans les drag shows et les soirées queer, etc. Et j'y ai vu du coup mes premiers shows drag en vrai. Et j'ai vu pour la première fois un drag king sur scène. Et je me suis dit, c'est bon, c'est décidé, je veux le faire aussi. J'ai participé à un atelier, premier atelier qu'il y avait à Lyon, d'initiation au drag king. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Il y a eu un moment où il a fallu que je choisisse de me professionnaliser ou non là-dedans. Et du coup, j'en ai fait mon métier.
Alors, comment est-ce que tu as choisi ton nom et quel est-il?
Alors, je m'appelle Yax Ferry Venti. Et Yax, c'était à la base un tic de langage que j'avais depuis un certain nombre d'années, qui en fait est un mot chypriote qui veut dire « burk ». Et en fait, quand j'ai eu à trouver un nom de drag king, je me suis dit que c'était le terme que j'employais le plus. Et je trouvais ça intéressant d'avoir comme prénom un nom qui signifie le dégoût. Mais personne ne sait que ça signifie le dégoût, parce qu'en vrai, c'est une autre langue. Et en fait, le drag est vu un petit peu par une partie de la société comme un truc un peu dégueulasse, un art qui n'en est pas un, et quelque chose qui est contre nature, hein. Et je trouvais ça vraiment drôle, du coup, de m'appeler avec un nom de dégoût, comme ça. Et puis Ferry Venti, mon nom de famille, ça vient de ma famille drag, qui est chilienne, et qui porte ce nom.
Comment est-ce que tu décris ton style de drag?
J'ai pas forcément de style de drag, parce qu'avoir un style de drag impliquerait qu'il y a des codes dans le drag, et il y en a pas. Mais après, en soi, je comprends parfaitement qu'il y ait des drags qui s'identifient à telle ou telle chose. Moi, personnellement, je m'identifie pas à grand chose. Je monte sur scène, je fais des fois de l'humour, des fois des trucs un peu dramatiques, et des fois des trucs super trash. Mais dans tous les cas, avec un fond ultra militant. J'utilise beaucoup ma vie personnelle comme support d'écriture pour toutes mes performances, quasiment. Un drag, un style de drag, un drag varié, un drag polyvalent.
Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer en tant que drag, du coup?
Les difficultés que j'ai retrouvées, de manière évidente, la précarité de la situation d'artiste, qui pour le coup se généralise à tous les artistes, je suppute, dès lors que tu n'es pas ni pistonné ni pistonné. Donc déjà ça, la précarité. Ensuite, l'invisibilité de par l'énorme minorité qu'on représente, les drag kings. Le fait que les scènes nous sont fermées par beaucoup de salles, y compris par des artistes drag queens qui sont pas très très ouvertes aux drag kings. Pas toutes, bien évidemment, une grosse partie nous soutient énormément, mais la petite partie qui nous soutient pas fait assez de place pour que pour qu'on ait vraiment un vrai manque d'accès à la scène, à la visibilité. Le fait que l'immense majorité des drag kings sont pratiqués par des personnes assignées femmes à la naissance et donc subissent le sexisme, qu'une partie aussi fait partie de la communauté trans et donc subit la transphobie. Donc dans notre domaine, le drag king, on a vraiment une multitude de petits trucs qui font que c'est beaucoup moins simple. Donc voilà, puis je pourrais m'éterniser vraiment longtemps sur la liste de trucs qui font que c'est plus compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut soutenir impérativement le drag king, soutenir via suivre sur les réseaux sociaux, parce que c'est le seul moyen de nous visibiliser en échange, gratuitement, puisque nous, on n'a pas les moyens autrement. Enfin bref, toutes ces choses-là, quoi.
Comment est-ce que ton personnage de drag a évolué au fil des années, depuis que t'as commencé ?
Il a évolué en même temps que moi parce que mon drag est une extension de moi. J'ai énormément de respect pour les personnes qui réussissent à tenir un personnage, à créer et tenir un personnage. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas ce talent. Du coup, je m'interprète moi-même avec du maquillage et des costumes et des trucs comme ça, quoi. Mais donc, il a évolué en même temps que moi, en civil, j'ai évolué. Donc, sur les questions... toutes mes idées politiques j'ai pas changé de bord politique, mais je me suis radicalisée par contre et puis juste sur mais sur tous les sujets de tout en fait, comme n'importe qui, j'ai grandi, j'ai mûri, inchallah, j'espère. Mais
c'est probable.
Non, mais je pense que oui, mais en soi, voilà, du coup, j'ai pas fait évoluer mon personnage en particulier, j'ai évolué moi et donc mon personnage avec.
Ok, très bien, c'est nickel. Comment est-ce que tu te prépares, que ce soit donc ton look ou mentalement, avant une performance ?
Eh bien, je prends environ 2 heures pour me maquiller. J'ai toujours le même maquillage, contrairement à pas mal de drag qui parfois se réinventent ou alors ont plusieurs personnages. Moi, j'en ai qu'un et j'ai une esthétique vraiment reconnaissable parce que c'est toujours la même. Depuis 4 ans, j'ai toujours la même. Enfin, depuis 3 ans, on va dire, parce que pendant la première année, je me suis quand même cherché un peu esthétiquement. Et puis, je savais pas me maquiller. Donc, bon, ça règle aussi pas mal de soucis. Mais du coup, je me prépare pendant 2 heures en termes de maquillage. Et puis sinon, rien. J'aime bien aller voir le public, discuter avec les gens. J'aime bien boire mon petit whisky coca, faire mes petites pauses clopes, et puis voilà, quoi. Je parle comme un beauf, on adore ça, mais... non, ça se résume un peu à ça. J'aime bien rencontrer les gens. Je me prépare un peu avant tout le monde, histoire d'être ready pour tourner, vagabonder dans la salle, voilà. Ou alors discuter avec les autres artistes en fonction du cadre.
Comment est-ce que tu gères les critiques ou commentaires négatifs, s'il en a ?
S'il y en a qui sont constructifs, je les prends avec énormément de plaisir et j'en demande. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour pouvoir évoluer que je ne pense pas avoir... je pense avoir du recul, mais pas assez pour pouvoir faire une autocritique ultra complète au point d'évoluer vraiment seul dans mon coin. J'aime bien, moi, les critiques négatives, constructives. J'en ai rarement, mais j'aime bien en avoir.
Ok. Quels sont tes conseils pour une personne qui souhaiterait se lancer dans le drag ?
Le premier conseil que j'aurais, c'est de se rapprocher des drags locales, impérativement. Et par là, j'entends aller à leur soirée, aller... voilà, ou alors même via les réseaux sociaux, leur envoyer un petit message... ou envoyer un message à n'importe quel drag, même si c'est pas de ta région. Envoyer des messages aux drags. L'immense majorité d'entre nous répondront parce que on aime bien aider les personnes à se lancer. Donc ouais, se rapprocher des drags, faire ses petites recherches sur l'histoire, c'est hyper important. Et puis c'est hyper instructif. Et puis c'est intéressant en fait dans tous les cas. Se renseigner sur l'histoire, ne pas se restreindre essentiellement à regarder Drag Race, accepter le fait que Drag Race est une partie de la représentation du drag. On va pas non plus shame les drags qui y apparaissent, dans le sens où c'est une forme de drag aussi. Il y en a, heureusement qu'il y en a, mais 90% du drag mondial ne ressemble pas à ça. Et par conséquent, il est impératif d'aller se renseigner sur tout le reste. Ce que c'est que le drag king, ce que c'est que les club kids, ce que c'est que les drag queer, et puis tutti quanti, hein, finalement. C'est très important. Et puis après, bon, bah, pas hésiter à acheter du maquillage ou prendre celui des gens qu'il y a autour de soi, s'en appliquer sur la tronche et ne pas penser à est-ce que je le fais bien ou mal, puisque le drag n'a pas de code. Donc on se lance, on s'étale ce qu'on veut sur la tronche et on voit, on teste, on danse, on chante, on se lâche. L'art du drag, c'est un art exutoire, c'est un art militant, c'est un art qui n'a pas pour but d'être forcément beau, c'est un art qui a pour but de militer, de dire des choses, de questionner énormément, mais qui est aussi un art qui sert de thérapie à l'immense majorité des personnes qui le pratiquent. Donc c'est hyper important de se dire, quand on commence, je n'attends pas de faire quelque chose de beau ou de bien, j'attends de faire quelque chose que j'aurais pas fait jusque-là. Voilà.
Ok. Et pour finir, est-ce que t'as un message que tu souhaites transmettre à travers ton drag ?
Bah, vive la diversité. Je suis là. J'aime bien passer le message que le king est ultra important. Parce que c'est ultra important, vraiment. Et puis, j'essaye de partager au maximum le drag king. Je donne aussi des ateliers d'initiation au drag king un peu partout en France pour partager autant que possible cet art, pour qu'il puisse continuer de vivre. Et puis ouais, je passe des messages de tolérance au maximum. Vive la diversité, c'est tout quoi. Ouais.
Continuons avec Ruff Werewolf, une drag queen qui a fait ses débuts hier soir.
Comment est-ce que tu as commencé ta carrière ?
Alors, ma carrière drag, je l'ai commencée en première année de licence en design, à l'époque où je suis sortie du domicile familial. Donc, j'avais plus d'indépendance, donc je pouvais plus me lâcher dans le sens où j'avais pas la mère derrière, j'avais pas la famille qui pouvait voir ou voir des trucs que je cache. Parce que pour l'instant, j'ai ma mère qui sait que je fais du drag. Et surtout en tant que femme trans aussi, voilà, le fait de pouvoir m'assumer moi-même, d'expérimenter tout ça. Donc. Ouais, ça, à force d'expérimenter, je me suis dit, ah, ben, je vais peut-être commencer maintenant, tant que je suis libre, on va dire, donc profiter de cette liberté.
comment est-ce que tu as choisi ton nom de scène ?
Alors, Ruff Werewolf, en fait, ça vient d'une phrase que j'adore dire, parce que j'adore parler anglais, et en fait, c'est I like it rough, et en fait, le rar, ça fait un peu côté animal, un côté un peu bestial que je cache un peu, parce que voilà, je suis assez... J'ai un peu une puce électrique, enfin, dans la vie de tous les jours, en civil, on va dire, je suis très posée. Mais j'ai envie, voilà, d'être plus libre et d'être un peu plus rough, quoi. Donc, et je voulais jouer un peu ce côté jour-nuit du loup-garou, enfin, de werewolf qui, la nuit, en pleine lune, se transforme. Puis moi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que en civil, je suis toujours une femme, mais le soir, je suis un peu plus extravagante.
Alors, comment est-ce que tu décrirais ton style de drag ?
Alors, mon style de drag, ça serait un peu un style alors, très, très sexy, assez kinky, mais en se réappropriant encore mon corps, surtout en tant que femme trans, où on a beaucoup de misogynie, dans le sens où on doit être féminine de telle façon et pas d'une autre. Et le fait de faire du drag et de me réapproprier mon corps, en fait, ça m'aide en fait à déjà ma dysphorie, mais aussi à prouver qu'on peut, peu importe le corps de la personne, on peut être féminine, il n'y a même pas à être féminine si on est une femme trans, en fait. Enfin, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec, et puis je me le réapproprie, que les gens sont contents ou pas. C'est mon corps, c'est mon choix, et basta.
Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer en tant que drag queen envers tout le temps ?
Moi, je viens de commencer, c'est vrai que je remarque, déjà, ouais, c'est la précarité, ça c'est sûr, parce que voilà, pour faire ma tenue, voilà, moi je suis pas très couturière pour le moment, donc j'ai dû acheter des tenues. Donc heureusement, j'ai des revenus à côté, mais c'est vrai que ça peut très vite s'enchaîner. Enfin, la perruque, déjà, ça m'a coûté un bon 70$, quoi, enfin 70€. Donc plus les transports, enfin plus la tenue, plus, enfin je pense que j'ai une tenue qui va aller dans les 150, 160, et pourtant c'est que du truc genre Vinted ou Le Bon Coin, enfin un truc vraiment récupéré. Alors j'imagine ceux qui font un truc personnalisé et custom. Et c'est vrai qu'il y a aussi peut-être la prise au sérieux, c'est-à-dire que le fait que les gens, enfin ça m'est arrivé des fois qu'il y en a qui m'ont disaient, mais t'es une femme, tu peux pas faire du drag. Alors du coup on doit toujours rééduquer les gens, dire que le drag c'est un art et que c'est pas juste réservé aux mecs cis hétéros, enfin mecs cis gays plutôt, parce que les hétéros, bon, ils en font aussi, mais c'est plus rare. Mais que le drag, voilà, c'est un art qui est queer et ouvert à tous, et qu'il n'y a pas de barrière à mettre, en fait. Enfin, c'est de l'art et l'art n'a pas à avoir de barrière.
Comment est-ce que ton personnage, il a évolué au fil du temps?
Il a évolué au fil du temps en même temps que ma transition, parce que, bon, voilà, je suis une transition, là, je suis bientôt un an d'hormones. Et en fait, c'est vrai que le drag m'a permis justement d'aider justement, ben, moi en civil, à mieux m'accepter mon corps, parce que c'est vrai qu'au départ, voilà, j'étais très dans le... Faut mettre des paddings, faut mettre un corset, faut mettre des gros cons, enfin, faut être naturel et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, du coup, ça m'a permis, ouais, de mieux accepter mon corps et de me dire, mais en fait, je suis bien tel que je suis comme ça, en fait. Et me dire, ben. Alors oui, il y a des trucs qui vont changer entre temps. Mais ça me permet, voilà, de me dire, ben, je peux rester comme ça. Ça me fait du bien et que. Ouais, c'est. Je pense que c'est même révélateur, en fait. Quand on fait du drag, c'est vraiment révélateur de fait de se voir autrement. Ça aide beaucoup.
Comment est-ce que tu te prépares avant chaque spectacle, que ce soit niveau look, mental?
Alors, niveau look, généralement, je prépare bien tout bien. Genre, j'ai vraiment ma tenue qui, normalement, elle est vraiment posée dans un coin où vraiment personne ne peut y toucher. Sauf que là, ça va être ma première, donc j'ai assez hâte. Et on va dire, je suis assez stressé, mais généralement, j'écoute ma musique en boucle. Ma musique en boucle pour toujours me remémorer les paroles et aussi un peu les pas de danse de temps en temps. Donc, je suis vraiment dans ma bulle, quoi. Je suis assez. Ouais, je prends 2 heures. 2h30 si je suis vraiment lente à bavarder, mais sinon, ouais, des fois ça m'arrive à faire 1h30. Donc voilà, moi je connais un peu, voilà, à force de faire mon make-up, je sais où commencer, par comment faire et tout. Donc,
Alors, comment est-ce que tu gères les critiques ou les commentaires négatifs sur tes performances?
Ben, vu que j'en ai pas eu encore pour l'instant, ben, je prends conseil aux autres, leur dire bon, ben, si ça m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive et comment je peux réagir. Et c'est vrai que oui, alors quand c'est des critique constructive, ok, là ça part d'un point A à un point B, c'est argumenté, tant mieux. Si c'est juste dire ah j'aime pas, c'est moche, ben en fait ça rentre, ça sort, quoi. Donc moi ce qu'il me faut pour évoluer, c'est des trucs argumentés, enfin vraiment des commentaires argumentés qui vont m'aider à avancer, quitte à même justement me donner des tips derrière. Enfin ça vraiment c'est le meilleur des critiques que je peux avoir, de façon, c'est-à-dire voilà, on a une remarque, une critique, et derrière on me pose une solution. On me donne une solution de comment je pourrais travailler dessus. Et oui, même sur les réseaux. Enfin, moi, voilà, pour l'instant, je suis un peu une look queen Instagram, parce que bon, j'ai que Instagram pour l'instant. Et ouais, c'est vrai que bah, des fois, ça m'arrive dans mes DM, me disant, ah, mais c'est moche, c'est pas beau. Enfin, des commentaires homophobes, queerphobes, transphobes et tout. Bah, en fait, c'est une marque, enfin, je m'y prépare. Parce que malheureusement, on est dans une société où, voilà, si on n'est pas des mecs cis hétéros, eh ben, on est un peu ben, mal vu. Enfin, on aura besoin de faire plus d'efforts pour avoir la même chose. Et surtout que, voilà, l'art du drag, c'est un art qui se démocratise avec RuPaul, mais malheureusement, les gens ont souvent que RuPaul Drag Race dans leur tête, donc ils se fixent juste à Drag Race, et c'est vrai qu'ils oublient qu'il y a, voilà, des drag kings, qu'il y a des drag club kids, qu'il y a plein d'autres types de drag que même moi, je connais pas encore, donc même moi, j'apprends, quoi, donc... C'est vrai que ouais, la critique, c'est assez chiant quand c'est toujours « Ah, ouais, mais sur Drag Race, j'ai vu que Drag Race, c'est pas... » C'est certes, alors c'est un peu... C'est le côté mainstream, mais c'est pas la réalité, quoi. Encore une fois, RuPaul's Drag Race, c'est, enfin Drag Race en général, hein, parce que ça s'est démocratisé partout, dont en France, c'est une télé-réalité où c'est, voilà, enfin il y a des edits, il y a des, enfin c'est coupé, c'est pas la réalité, quoi. Enfin c'est du montage, c'est modifié, ça sort des contextes. Ça, même moi des fois on me dit, est-ce que tu voudrais faire Drag Race? Ben si je fais Drag Race, c'est juste pour évoluer dans mon drag, mais aussi passer un message, dire que ben les femmes trans, enfin toute personne peut faire du drag. Et aussi prouver que bah, y a pas à être dans les codes, entre guillemets, parce que voilà, encore une fois, le drag n'a pas de code, justement. Moi, personnellement, je vois ça comme un art exploratoire, on va dire. C'est-à-dire que j'expérimente tout type de make-up, même ma façon de m'habiller, de comment me percevoir. Enfin, c'est vraiment le voir. Moi, je vois vraiment l'art du drag comme vraiment une extension de soi-même, en fait.
Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui souhaiteraient se lancer dans cet art?
Ne pas se priver, en fait, dans le sens où, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un art exploratoire, on va dire. Donc, moi, je vois ça comme ça, où je me dis, bien, en fait, je peux explorer tout ce que je peux pas me permettre, entre guillemets, dans la vie civile. Et ouais, enfin, n'ayez pas peur de tester des make-up, tester des combinaisons de couleurs, de même des musiques que vous écoutez pas du tout. Enfin, parce que voilà, même des performances que vous pensez jamais faire, parce que le drag c'est vraiment très polyvalent. Enfin, il y a des queens et des, enfin, je vais plutôt dire des queer plutôt. Enfin, des drags tout court qui voilà sont plus focus sur la danse, donc d'autres plus sur le stand-up, d'autres ben hosting. Donc c'est vraiment prouver, enfin, vraiment expérimenter le plus possible. N'ayez pas peur de faire des erreurs, parce que c'est ce qu'on m'a dit même aujourd'hui, hein. Au début, enfin, le début, c'est le meilleur moment de justement de se tromper, de faire un peu de la merde, gros guillemets. Parce qu'en bon, techniquement, on fait pas de la merde, parce que, enfin, même la communauté drag, enfin, en tout cas, la fanbase, enfin, les gens qui viennent voir des shows drag, ils sont hyper ouverts. Enfin, même si tu te rates, eh ben, ils vont être là pour t'encourager, pour dire vas-y, continue, enfin. C'est pour ça, mais moi, c'est pour ça, j'attends ce soir pour voir, pour recevoir tout ça aussi. Donc, mais ouais, le conseil, pour résumer, le conseil que je donne, c'est vraiment allez-y, ne vous privez pas et puis écoutez vous-même en fait.
Et enfin, est-ce que tu fais passer un message à travers tes performances et ton drag en général ?
Ben, dans mon drag, on va dire que j'essaie de passer un message surtout au niveau du corps en tant que femme trans, encore une fois, où le voilà, on est très la misogynie qui. Et toujours, alors oui, les femmes doivent être comme ça, et aussi en même temps répondre aux commentaires, ils disent ouais, mais à cause de vous, les personnes trans, nous les femmes cis, on est obligé d'être comme ça. Bah, en fait, non. Enfin, à un moment, on est nous-mêmes et basta. Enfin, moi, voilà, je me réapproprie mon corps. Oui, mon drag est de manière un peu plus sexy, kinky, mais c'est justement pour dire qu'à un moment, ben, on peut être sexy à n'importe quel moment, on peut être sexy sous n'importe quelle forme, de n'importe quelle couleur, on peut, de n'importe quel genre. Enfin, voilà, tant qu'on est nous-mêmes, je trouve ça sexy perso.
Enfin, nous avons rencontré Damon Chileux, qui, lui, fait du club kid, un autre style de drag.
Bon, comment est-ce que tu as commencé le drag ?
Alors, donc moi, j'ai commencé le drag en boîte. Alors, en fait, j'ai commencé à traîner avec des gens qui faisaient un peu, quoi ça s'appelle, qui se mettaient en drag et tout. Et moi, je me suis dit, bah, écoutez, why not moi ? Alors, sachant que déjà, un peu dans la vie de tous les jours, déjà, je me maquillais, etc. Mais bon, pas en drag, du coup, mais bon, déjà, de manière assez excentrique. J'avais déjà un style entre les piercings et compagnie, et du coup ça m'a permis, je me suis dit bah allez go, c'est parti. Donc j'ai commencé voilà un peu en boîte, en soirée, et voilà.
Alors comment est-ce que tu as choisi ton nom et quel est-il aussi?
Alors du coup, donc moi c'est Damon Chileux. Alors pourquoi? Parce qu'en fait de Damon, de démon en latin, et Chileux du peintre expressionniste viennois Egon Chileux. Et voilà, en fait, c'était mon pseudo Twitter. Voilà, donc c'est vraiment pour dire, en fait, quand il fallait que je choisisse un nom de drag, je savais pas quoi faire et tout. Et puis, c'est une pote drag à moi qui m'a dit, mais prends ton pseudo Twitter. En fait, je disais, mais ouais, grave. Et du coup, voilà, ça m'est resté.
Alors, comment est-ce que tu décrirais ton style de drag ?
Donc, alors, moi, je fais du club kid. Je sais pas si vous en avez eu avant ou pas, mais donc, du coup, le club kid, c'est quoi ? En gros, le club kid, si vous voulez, c'est un mouvement qui est né à la fin des années 80 à New York, et où c'était des jeunes qui faisaient la fête et qui s'habillaient un peu n'importe comment et se maquillaient un peu n'importe comment. Et du coup, c'est aussi devenu une forme de drag, donc ces derniers temps et tout. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas moi, sachant que voilà, ce que j'aime bien faire avec mon drag, c'est faire absolument n'importe quoi et ne pas avoir de code comme peuvent avoir des fois les drag kings, les drag queens ou quoi. Je voulais vraiment sortir de ce côté très binaire et juste faire n'importe quoi, et voilà quoi.
Alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés ?
Pas tellement. Alors, oui et non. Alors, c'est-à-dire que moi, faut savoir que je fais vraiment du drag juste par passion, juste parce qu'en fait, j'ai juste envie de faire ça, juste. Donc, je vois pas ça comme un truc. Enfin. Il y a un côté politique et tout forcément, mais que moi je veux quand même, je sais pas, moi ça va tout pour le plaisir et tout. Et on va dire, du coup, si je peux avoir rencontré de difficultés, c'est justement le fait que je ne sois ni drag queen, enfin que je sois pas une drag queen. Et mine de rien, avec l'émergence de RuPaul Drag Race et tout, c'est les drag queens qui étaient, les drag queens étaient donc très recherchées, donc ça fait qu'on me bookait moins, etc. Mais bon, voilà, donc c'était plus ce côté-là, mais. Le côté, on va dire un peu exclu de la société.
Alors, comment est-ce que ton personnage, il a évolué depuis que tu as commencé à te produire ?
Alors, moi, j'avais commencé avec une esthétique très clownesque, très, très clown. Genre, je partais vraiment de là et je sais pas. Et en fait, au fur et à mesure, Mais en fait, ça part un peu dans n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé après à avoir des idées un peu farfelues, style à me coller des mégots sur la tête. Je sais pas, là, ma dernière lubie en ce moment, c'est d'utiliser du latex pour me faire un peu des sortes de craquelures au visage et tout. Donc, je sais pas, c'est plus une évolution vers n'importe quoi qu'autre chose. Donc, j'ai un peu quitté l'esthétique clown, même si j'ai quand même encore quelques attraits à tout ça.
Comment est-ce que tu te prépares, que ce soit ton look ou même mentalement, avant une performance?
Le préparer, genre au niveau du look, de style maquillage et tout?
Ouais, bah même okay. Si t'as un petit rituel avant de monter sur scène.
Alors, ou... pas tellement. Alors après, moi, ça dépend. Alors, je me désinfecte. Alors, faut savoir que je fais des perfs des fois un peu trashos. Genre, là, par exemple, ce soir, ce que je vais faire, enfin. Mais du coup, en gros, je vais, par exemple, moi, je vais m'agrafer des trucs sur scène, sur ma peau, même la peau. Je sens vos regards. Mais je m'agrafe des trucs, donc. Des morceaux de tulle et tout, donc bon, j'essaye de me désinfecter parce que bon, quand même, pour éviter de choper le tétanos ou quoi, ce serait pas mal. Mais sinon, après, non, comme je disais, je suis pas très quelqu'un qui stresse et tout, parce que je sais pas, comme j'ai dit, je prends ça pour le plaisir et tout, donc voilà. Et après, pour maquiller, je suis pas comme les dragues qui mettent 150 ans à se maquiller, moi il me faut une heure et demie grand max. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que je déteste maquiller, en fait, je perds très vite patience et du coup, je trouve ça chiant, donc j'essaye de faire ça vite et voilà.
Comment est-ce que tu gères les critiques ou les commentaires négatifs par rapport à ce que tu fais?
Alors, j'avoue que moi, j'en ai pas tellement. Alors, c'est très bizarre parce qu'il faut savoir que, enfin, comme j'ai dit, je fais un peu n'importe quoi. J'ai pas tellement de... Mais justement, je crois que c'est ça. Le fait que ça se voit que je fais un peu n'importe quoi et que j'aime ça, ça fait que j'ai pas trop de critiques. En fait, vu qu'il n'y a pas de code, ça fait que les gens viennent pas me dire des trucs en mode « Ah, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça ». Donc bon, donc voilà, donc et après de toute façon les critiques, enfin s'il y en a, enfin je veux dire c'est pas, enfin c'est moi qui paye mon maquillage, c'est pas les autres quoi, donc bon moi je vais, enfin c'est mon affaire, donc comme je disais c'est le plaisir avant tout et donc voilà je I can hear the haters.
Alors est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui souhaiteraient débuter?
Ben juste faites-vous plaisir, n'écoutez pas les autres, écoutez que vous et vraiment genre vraiment lâchez-vous et faites ce que vous voulez, évitez de trop vouloir ressembler à un tel, à ci, à ça, parce que c'est généralement ce qu'on veut, ce qu'on essaye, mais en fait non, faites juste ce qui vous fait plaisir et ressemblez à vous-même et c'est comme ça que vous prendrez du plaisir et justement évitez de trop se prendre la tête par rapport au drag et tout, que c'est avant tout un plaisir et tout. Il y a un côté très politique évidemment qui est très primordial, mais voilà, le plaisir avant tout, quoi.
Et enfin, est-ce que toi, tu as un message que tu essaies de transmettre quand tu performes?
Ben, s'éclater. Vraiment, j'ai pas trop... En fait, par exemple, je pourrais avoir des trucs très politiques et tout, mais au final, je... En fait, le simple fait d'être en drag, mine de rien, c'est quand même un acte politique. Le simple fait de devoir se maquiller alors que je suis un mec cis ou des trucs comme ça, c'est en soi c'est un acte. Donc moi, ma performance, j'ai pas tellement de messages. Comme j'ai dit, hein, je m'aggrave des trucs ou alors enfin je fais juste n'importe quoi. Donc moi, j'ai pas tellement de messages. Et en fait, moi, mon message, c'est plus. Je sais pas, c'est plus un tout acceptation de soi que j'ai dans mon look au quotidien, etc. Enfin, au quotidien ou en drag aussi, quoi.
Pour conclure ce Campus Zoom, nous vous rappelons qu'il est important de se battre contre les discriminations toute l'année et non seulement en mars. Vous pouvez trouver tous les événements organisés pendant ce mois et qui mettent en lumière ces problèmes et promeuvent la diversité et l'inclusion sur le site de la ville de Pau et notre zoom précédent. Pour ce qui est de la pratique de la drag, c'est réellement un art qui célèbre la créativité, l'art et l'expression de soi, sans jugement et sans discrimination.
Cette pratique est considérée comme une forme de divertissement et d'expression de soi. Et si cela vous tente, n'hésitez pas à vous lancer dans cet univers. Il y aura toujours des personnes qui vous soutiendront dans la communauté drag elle-même. Cis, trans, queer, peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, le drag est un art pour tous. Nous tenons à remercier Marion et les drag artistes Jimmy Bigoudi, Yax, Roth et Damon d'avoir répondu à nos questions et pour l'incroyable spectacle d'hier. Vous pouvez les retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à les suivre et à les soutenir.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un bon moment.
En attendant de vous retrouver, vous pouvez réécouter le podcast sur radiocampuspo.fr et vous pouvez suivre Radio Campus Pau et Campus Max sur Instagram. Bonne soirée à tous et bon week-end. Vous êtes sur Radio Campus Pau.
Retrouvez Campus Zoom,
l'émission qui fait le zoom sur le local.